Bonjour à tous et bienvenue ici à Caen dans cette deuxième émission de la saison 6 des Clés de la Ville. Nous sommes en Normandie, un territoire qu'on apprécie particulièrement.
Donc on a décidé, pour occuper le terrain, d'aller de ville en ville, de rencontrer ceux qui fabriquent le territoire.
Dans cette émission, coproduite par Figaro Immobilier et Radio Immo, immobilier, logement, urbanisme, patrimoine, l'état des marchés à la fois dans le neuf et aussi dans l'ancien, mais aussi évoquer les petits comme les grands projets.
Des échanges, des témoignages en plateau avec des personnalités emblématiques. Nous recevrons Maître Jean-Michel Boisset, qui est notaire. Nous recevrons Stéphane Lavrioux, qui est directeur régional Next City Normandie, Bretagne et Atlantique. On est ravis également d'accueillir, c'est le principe de notre émission, notre grand témoin du jour, Colin Hurel, architecte et responsable d'opération d'aménagement pour Caen, Presqu'île et Normandie Aménagement.
Eh bien, on va voir un reportage tourné il y a quelques jours par Alexandre Burkhardt et Grégoire Daricot. Le reportage, c'est parti.
Et bonjour à tous, bienvenue à Caen pour ce deuxième épisode de la sixième saison des Clés de la Ville. Je suis ravi de vous accueillir dans cette ville chargée d'histoire, une ville qui a été détruite, reconstruite pierre après pierre. On va voir ensemble son dynamisme culturel, son dynamisme territorial, puis on va parler bien évidemment d'urbanisme. Au fil de ce reportage, on va voir ensemble comment est-ce que Caen allie tradition et modernité, et comment la ville évolue, bouge. Les Clés de la Ville, saison 6, épisode 2, c'est parti.
À Caen, la transition ne se proclame pas, elle se construit. Capitale régionale au positionnement singulier entre Paris et la Manche, la ville s'inscrit dans une dynamique d'équilibre, c'est-à-dire un territoire à taille humaine mais ambitieux, un bassin de vie accessible mais en pleine mutation.
Nous sommes ici au cœur historique de Caen, entre ses monuments, ses rues commerçantes, ses ruelles médiévales. C'est ici que bat réellement le pouls de la ville.
Le centre-ville, longtemps marqué par l'histoire, se réinvente. Entre réaménagement des espaces publics, revalorisation des friches, mobilité douce, le cœur de Caen affirme une volonté claire de modernité sans rompre avec son identité.
Nicolas Joyot, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes président de la communauté urbaine Caen-la-Mer. C'est aujourd'hui une métropole à taille humaine entre mer et campagne. Comment est-ce que vous définiriez l'ADN de ce territoire et puis qu'est-ce qui en fait sa singularité dans le paysage français ?
C'est effectivement une de ses grandes forces d'être un territoire à taille humaine avec des qualités intrinsèques géographiques, avec une façade littorale. La ville de Caen a fêté son millénaire cette année, donc avec un patrimoine très riche. Le littoral, il a une place évidemment importante sur Caen-la-Mer. C'est une de ses grandes forces dans le positionnement géographique qui est le nôtre. Ça participe à la qualité du cadre de vie. C'est aussi un moteur économique avec des activités portuaires qui sont installées le long du canal. Effectivement, on a un patrimoine très divers sur Caen et sur Caen-la-Mer. Un patrimoine très présent aussi de cette période de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale que nous valorisons de plus en plus. Et puis un patrimoine beaucoup plus moderne. C'est dans la discussion avec les acteurs que nous arrivons à concilier ces différents patrimoines. Donc c'est vraiment dans le dialogue. Dialogue avec les architectes, dialogue avec les porteurs de projets, que ce soit des promoteurs immobiliers, que ce soit nos bailleurs publics, en essayant systématiquement de contextualiser les projets dans leur environnement. Il y a une qualité de dialogue qui est très forte sur ce territoire et qui participe grandement à cette dynamique que nous vivons.
Bienvenue sur la presqu'île de Caen, c'est la version moderne de cette ville. Ici se croise une certaine mixité des usages avec des bureaux, des commerces et puis des logements.
Hey.
Effectivement, la dynamique de création d'emplois ces 10 dernières années sont environ 1400 emplois salariés privés nets qui ont été créés tous les ans sur le territoire. Donc ça nécessite évidemment une politique de logement qui soit ambitieuse et qui a pour objectif de loger tous les déciles de la population. Donc on a évidemment un travail partenarial avec nos bailleurs publics pour conserver un taux de logement social au-delà des 25% sur le territoire et puis un travail aussi sur le logement des classes moyennes, notamment avec la création ces dernières années d'un office foncier solidaire. Donc on multiplie les outils pour que chaque frange de la population puisse trouver son logement sur le territoire de la communauté urbaine.
Le foncier y reste encore abordable, mais la pression s'accentue. Les attentes des habitants évoluent. Proximité des services, qualité architecturale, performance énergétique. Pour les acteurs publics et privés, l'enjeu est d'anticiper sans se précipiter.
Voici ici dans le quartier Hastings, on est à deux pas du centre-ville. C'est un quartier calme, résidentiel et plutôt recherché.
Et là, je fais référence au plan local d'urbanisme Habitat Mobilité que nous travaillons en ce moment avec les 48 communes du territoire. Nous n'avons pas voulu faire de course à la métropolisation dans ce plan local d'urbanisme. Nous n'avons pas souhaité aller vers toujours plus d'habitants. Nous avons capé le nombre d'habitants en 2040 à 290 000 habitants. Nous sommes aujourd'hui 275, 280 000, en tenant compte à la fois de la capacité en ressources en eau du territoire et puis pour maîtriser le développement aussi de population du territoire. Donc c'est évidemment poursuivre une dynamique hyper positive, mais surtout maîtriser cette dynamique et rester ce territoire à échelle humaine qui propose une qualité de cadre de vie exceptionnelle.
Qu'on n'aspire pas à rivaliser avec les grandes métropoles, mais à offrir une alternative solide, ancrée et durable. C'est un territoire où le logement n'est pas une contrainte mais un levier, un territoire qui, à sa manière, redéfinit l'attractivité.
Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette visite de Caen à nos côtés, une ville intéressante, une ville paradoxale qui continue d'être portée par son histoire tout en innovant, tout en attirant. Emploi, logement, Caen est un territoire dynamique. Sylvain Olivier, c'est à vous, je vous passe le relais en plateau et je vous souhaite une très belle émission.
Eh ben, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Voilà pour ce reportage donc réalisé il y a quelques jours par Grégoire Daricot et Alexandre Burkhardt. Colline Hurel, donc rebonjour.
Bonjour,
merci
à
d'être
tous.
Notre invité ici dans cette émission. Peut-être tout d'abord, que vous inspire ce reportage ?
Ben, je pense que c'est très juste, tous les propos de Nicolas Joyot sur la ville, la qualité humaine, l'attractivité, les attentes des habitants et les perspectives de développement qui sont vraiment fondamentalement ancrées aujourd'hui.
Alors, on va voir avec vous et on va vous interroger avec Sylvain, notamment sur un magnifique projet projet emblématique de la presqu'île de Caen, qui avait pris une dimension absolument énorme il y a quelques années, qui a été un petit peu adapté, remis au goût du jour. On a revu son ambition, on change un petit peu d'échelle. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet, peut-être initialement de ce projet d'éco-quartier ?
Refaire un peu la jeunesse, parce que c'était un projet au départ absolument incroyable.
C'était un très grand projet,
c'est un projet même en Europe, c'était l'un des plus gros projets. Oui. On l'avait vu sortir.
Et... Oui, c'est ça. En fait, en 2012, il y avait donc un grand concours qui avait été organisé, un grand concours d'archi urba, avec trois équipes qui avaient été retenues pour concourir. Il y avait l'AUC, il y avait MVRDV et il y avait l'équipe François Leclerc. Et donc, à l'issue de ce concours, c'est l'équipe MVRDV qui avait été retenue pour travailler donc sur le territoire global de la presqu'île. Donc c'est à peu près 300 hectares. Donc en gros, c'est depuis la pointe jusqu'à l'estuaire. Et pour travailler sur toute la cohérence territoriale de toute cette langue de terre en fait prise entre l'Orne et le canal. Et donc c'est MVRDV qui a été retenu pour travailler sur ce projet, avec un projet qui s'appelait la Grande Mosaïque. Ouais. À l'issue de ces études, il y a eu plusieurs secteurs opérationnels qui ont été vraiment qui ont pu être distingués. Donc il y avait le site du nouveau bassin, site sur lequel je travaille aujourd'hui pour la SPL Caen La Mer Aménagement, donc qui est le concessionnaire de l'opération pour le compte de Caen La Mer. Le site Archipel, donc qui pour le coup est porté par Nexity, et d'autres secteurs opérationnels qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Mais aujourd'hui, donc ce sont ces deux grands secteurs qui sont opérationnels aujourd'hui.
Mais initialement, il était question d'habitation.
Oui, alors historiquement, sur le territoire du nouveau bassin, de façon spécifiquement, il était question de réaliser à peu près 2300 logements. À l'échelle de la collective, de la commune, c'est énorme.
Ouais. C'est un projet colossal.
Exactement. Et donc c'était vraiment un morceau de ville. Et l'objectif et les ambitions portées par ce projet, c'était vraiment d'en faire une sorte d'extension du centre-ville. C'est-à-dire que d'avoir vraiment un travail fin sur la question de la mobilité, d'avoir du stationnement en ouvrage, donc en parking silo, pour qu'il y ait le moins de voitures possible dans les espaces publics.
Des rez-de-chaussée surélevés.
Des rez-de-chaussée surélevés, oui, parce que par contre, on est dans l'imageur du fleuve, forcément. On est pris entre l'Orne et le canal, et donc soumis à des risques inondation et submersion dans le cadre des PPRM, donc les plans de prévention des risques.
PPRM,
plan de prévention des risques multiples. Parce que là, c'est inondation et submersion.
On aime beaucoup ça en France, hein, les acronymes.
Ah bah ça, oui, c'est servi sur tournure
d'analyse. Donc vous avez revu, en fait, finalement, la configuration de ce projet pour lui donner une nouvelle impulsion.
Exactement. En gros, concrètement, donc en 2022, on avait lancé nos premières consultations promoteurs, etc., on pourra en parler après, mais on allait signer avec nos équipes pour une première phase de construction, de réalisation. Donc on avait à peu près 250 logements et on avait d'ailleurs aussi sélectionné l'équipe d'après. Donc on avait à peu près un volume de 500 logements qui était un peu rythmé sur nos premières phases. En mars 2023, donc on avait aussi toutes les autorisations, hein, notre ZAC était vraiment bien bouclé, on avait le droit de démarrer.
En plus dans un temps plutôt bon, hein, ça a été relativement rapide.
C'est ça. Et en mars 2023, donc à la fin du mois de mars, en gros, il y a une synthèse du rapport du GIEC qui est sortie et en gros, cette synthèse faisait encore une fois état à chaque fois de perspective d'augmentation du niveau marin, toujours croissante.
Et une alerte, en fait, et à partir de là, exactement, de ce rapport du GIEC, donc une prise de conscience,
exactement,
qu'il fallait peut-être voir les choses différemment.
Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une espèce de changement de prisme, justement. On sortait de la question du risque et on allait regarder la trajectoire et le régime courant.
Dans le temps,
en se disant...
Effectivement, quand on lit le rapport du GIEC, c'est un peu flippé, hein, quand même... Quand on le lit, on voit qu'effectivement la projection de ce projet, notamment pour les aspects résidentiels, essentiellement, était problématique dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il y avait une projection très forte dans le temps.
En fait, ce qu'il y avait, les plans des préventions des risques regardent le risque, donc regardent la question de l'aléa.
Oui,
la conjonction des phénomènes, des pluviométries plus intenses, etc.
L'élévation du niveau de la mer.
De la mer, mais ce qui n'est pas regardé, c'est Donc là, ce qu'on a regardé attentivement, c'était à horizon 2100, à 1 mètre d'augmentation du niveau marin à Ouistreham, qu'est-ce que ça donnait en régime courant sur nos espaces publics du nouveau bassin. Parce que le problème, c'était pas le niveau des rez-de-chaussée, parce que les rez-de-chaussée étaient déjà surélevés, le quartier était déjà conçu de façon très résiliente, avec l'intégration de dispositifs de transparence hydraulique et tout ce qui était parfaitement conforme au PPR et puis à notre dossier loi sur l'eau. Mais le régime courant, en fait, faisait état que, en gros, un jour sur trois, on avait de l'eau à marée haute, quoi, avec des forts coefficients de
oui,
marée.
Quand même, oui.
Donc après, pas forcément beaucoup d'eau, mais un peu d'eau. Donc en gros, ça remettait en question la question de l'acceptabilité, en fait, d'habiter un nouveau quartier. Et en revanche, ce qui est porté par les élus, bien entendu, c'est de dire, bah, en fait, on peut abandonner un projet, mais pas un territoire. Et donc, en fait, ce site du Nouveau Bassin, c'est un territoire qui est en cœur d'agglomération, très accessible à proximité de la gare, très connecté, en lien avec un certain nombre d'équipements. On l'a vu dans la vidéo, le cargo, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le tribunal. Donc, c'est quand même un site d'exception. Et aussi, il a ce privilège d'avoir une vraie relation à l'eau avec son lien avec le canal. Et donc, la question était de ne pas abandonner ce territoire et de voir comment... Parce qu'en fait, on voit qu'on a une fenêtre de tir quelque part. On se dit que aujourd'hui, tout va bien sur le site du Nouveau Bassin et que les perspectives, c'est à horizon 2080-2100 où là, ça va commencer à être problématique. Mais le discours, c'est de dire en fait, on a 5 ans pour bâtir et 50 ans pour amortir.
Pour bâtir différemment, c'est-à-dire que vous allez, en fait, vous n'abandonnez pas.
Non.
Le projet, il est simplement revu et corrigé, mais on ne parle plus d'habitation, on parle d'hôtellerie, d'activité, de loisirs, de sport. Vous pouvez nous en parler justement concrètement, où on en est aujourd'hui.
Alors, quand vous dites hébergement, on parle de quoi? De
résidence étudiante.
Résidence étudiante. Ouais. Ah, quand même, donc on a quand même un aspect résidentiel plus court, bien évidemment, parce qu'il y a une très forte demande du logement étudiant.
Exactement.
On en parlera d'ailleurs avec nos différents intervenants, mais du coup, le projet, vous l'avez... il n'était pas suffisamment engagé pour pouvoir déstructurer ce qui avait déjà été fait, mais simplement réanticiper avec une projection dans le temps, c'est bien ça ?
Exactement. En gros, on a revu notre copie en se disant, on va toujours commencer par la première phase et on ne va pas faire 200 000 pour l'instant, on va cibler sur 20 000, donc on fait 10 fois moins. Et on cible plutôt sur les points hauts, donc les points qui seront le plus longtemps possible quelque part hors d'eau ou en dehors de ces... de démarrer.
Bien sûr.
Et en garantissant bien entendu une accessibilité à travers le réseau Villers pour desservir un peu ces îles de la presqu'île en gros. Et en se disant que on va travailler sur une programmation plutôt donc d'hébergement, de résidence mais à court terme. En gros, ce qu'on veut pas c'est générer évidemment de d'instabilité pour certaines populations, de se dire que en fait travailler sur le temps assez court et en se disant voilà, on a 50 ans pour amortir et uniquement sur des fonciers qui sont propriétés de la collectivité.
Alors vous avez, excusez-moi Olivier, vous avez aussi pensé ce territoire par extension, vous l'avez dit tout à l'heure, du cœur de ville.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas un nouveau quartier qui fait une rupture entre la ville, sa tradition, formidable architecture, d'ailleurs on y est au cœur, mais bien un prolongement. Ça aussi, c'est une pensée architecturale de l'aménagement du territoire.
Ah oui, mais complètement. Mais alors ça, la collectivité l'avait déjà depuis 2005, si je ne me trompe pas, engagé vraiment toute la réflexion sur la reconquête de Caen et de sa presqu'île, en fait, avec forcément le déclin des activités industrielles en plein cœur de la ville.
Je prends l'analogie de la ville de Strasbourg, vous savez, qui avait toujours une espèce de no man's land avec le port, vous savez, sur le Rhin. Et en fait, dans l'ancienne équipe municipale de Roland Ries, effectivement, l'idée, c'était de réinvestir le port pour se rapprocher, finalement, du bord du fleuve, et avec la ville de Kehl, en Allemagne, de l'autre côté. Et finalement, quelque part, de donner une extension naturelle de la ville, puisque vu les contraintes d'étalement urbain aujourd'hui, vous le savez, et des injonctions qui sont faites, qu'on peut comprendre, hein, d'ailleurs, pas toujours évidentes, mais qu'on peut comprendre, je trouve que le pari est vraiment extrêmement intéressant. Vous avez conscience que ce que vous faites là, en ce moment, est très iconique pour le reste du territoire et de la métropole ?
Eh ben, on en a conscience parce que, enfin, on s'en rend compte, puisque finalement, on est très régulièrement amené à communiquer sur ces questions-là, à en parler dans la presse, et on est vraiment...
C'est pour ça qu'on est très heureux d'en parler, parce qu'effectivement, je trouve que le talent, l'ingénierie, que ce soit avec les promoteurs, vos partenaires publics et privés, ont réussi finalement quelque chose d'extrêmement ingénieux pour le bien de la population, justement, c'est une question, la population, elle réagit comment?
Bah exactement, non, mais c'est surtout la prise de conscience de la collectivité qui a été aussi très rapide en réalité, parce que suite à ces annonces-là, il a fallu expliquer à nos élus qu'en réalité, on n'allait pas mettre en œuvre l'éco-quartier tel que défini initialement.
En fait, ce grand projet a tenu compte en fait du changement climatique, mais il y a eu une acceptation en fait de l'intégralité en fait des équipes qui ont bien compris qu'il fallait l'adapter et le changer.
Tout de suite, très vite. Ouais. Joël Bruno, à l'époque, qui était donc maire de Caen et président de Caen-la-Mer, a très vite dit, on ne signe pas avec les promoteurs qu'on a retenus, on met en pause le projet, on prend un peu de recul, et d'ailleurs, ce recul-là a conduit la collectivité à lancer en groupement de commandes avec l'État une étude hydraulique macro à l'échelle de la basse vallée de l'Orne pour mieux comprendre justement les phénomènes hydrauliques, les différents systèmes hydrauliques qui peuvent se raccorder à la fois à l'Orne, au canal et en pouvant disposer finalement d'un jumeau numérique.
Et de devenir un atout finalement. Ce qui apparaissait comme une contrainte, notamment sur la partie hydraulique, peut devenir effectivement un avantage.
En tout cas, une prise de conscience très forte de la collectivité qu'il faut ne pas subir ce sujet-là, mais l'anticiper, et en disposant d'abord d'un modèle hydraulique, donc d'un jumeau numérique, et en gros de pouvoir faire varier différents scénarios pour regarder comment protéger l'existant, mieux comprendre la dynamique et la nouvelle géographie que ça va générer, parce que c'est sûr que c'est une trajectoire.
Comment ont-ils abordé, parce que vous avez beaucoup travaillé avec l'agglo a beaucoup travaillé avec la population, comment aujourd'hui les administrés réagissent avec ce fabuleux projet?
Alors le projet aujourd'hui, les administrés, saluent le geste de la collectivité, en fait, d'avoir pris conscience de ça.
Alors
c'est
preuve de bon sens.
Oui, exactement. Ouais, oui.
Il y a de bonnes remontées, etc. Parce que vous travaillez beaucoup sur les aspects de concertation, sur la consultation de la population, à l'échelle de la municipalité et de l'agglomération.
Oui, bien entendu, mais en réalité, là, aujourd'hui, on est aux prémices de ce nouveau projet.
Bien sûr,
on va lancer prochainement un appel à projet sur ces sites-là pour justement trouver des porteurs de projets pour pouvoir développer les projets immobiliers.
Alors, on va y trouver des résidences étudiantes, on va y
trouver des activités sportives, la nature aussi qui est placée aussi au cœur du projet.
Un peu d'hôtellerie peut-être.
Pas de bureau, commerce.
A priori, pas de bureau, commerce, artisanat, peut-être dans une seconde phase. Restauration.
Alors, c'est vrai qu'au niveau restauration, il y a le lieu.
Ouais, s'y prête.
Le lieu s'y prête, ça peut être très sympa aussi, ça peut devenir un lieu de sortie, un lieu festif. En plus, s'il y a une résidence étudiante, ça peut être très sympa.
Et en plus, on voit que donc il va y avoir à l'horizon dans 2-3 ans à peu près 1000 nouveaux étudiants à cet endroit-là.
Énorme.
Puisqu'il y a l'ISEN qui est en train de s'achever, c'est 600 étudiants qui sont attendus à la rentrée 2026. On va avoir une extension de Sciences Po au niveau du Dôme, où c'est à peu près 300 étudiants, je crois. En gros, quelque part, finalement, on est en train de créer un mini-campus. Donc, il y aura un besoin de résidence étudiante.
Et avec une thématique aussi importante, c'est la réversibilité.
Exactement.
Un mot ?
50 ans. Donc, on a 5 ans pour bâtir et 50 ans pour amortir.
C'est la punchline du dispositif.
Oui, exactement. C'est de se dire qu'en gros, tout de suite, dans la définition des projets immobiliers qu'on va retenir donc sur ces fonciers propriété de la collectivité, on intègre d'emblée la déconstruction au bilan général de l'opération.
Parfait, très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. Si on veut en savoir un peu plus, est-ce qu'il y a un site dédié sur la presqu'île et sur les aménagements?
Il faut nous écrire et on se fera un plaisir de répondre.
Très bien, parfait. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Kelly Mouel. Et on va poursuivre maintenant, on va continuer à mieux connaître le territoire de Caen avec l'immobilier ancien et Jean-Michel Boisset, vice-président chez les notaires.
Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
De retour ici à Caen, toujours dans cette émission des clés de la ville pour la saison 6, deuxième émission. Et nous allons aborder maintenant l'immobilier ancien, toujours accompagné de mon fidèle complice Sylvain Lévy-Varancy. Et on va aborder l'immobilier ancien avec un expert qu'on est très heureux d'avoir sur le plateau, c'est Maître Jean-Michel Boisset. Bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour Sylvain.
Vice-président de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Caen, présent depuis 15 ans ici. Un peu plus.
25 ans en tant que notaire, mais j'ai avant un petit séjour en région parisienne. J'ai fait mes études aussi à Caen et j'habitais à côté du port de Caen.
Bon, en tout cas, une grande expertise et on va avoir besoin de votre éclairage. Ceux qui connaissent pas Caen, justement, la métropole, qui ont peut-être aussi envie, pourquoi pas, d'investir. Déjà, nous expliquer dans un premier temps, Jean-Michel, peut-être les spécificités du marché immobilier caennais.
Alors, on l'a vu, Caen, l'agglomération, c'est Caen la mer. On a vu, avec notre intervenante précédente, que c'était peut-être quelques contraintes, mais c'est aussi des atouts. C'est-à-dire qu'il y a une ville qui fait 200 000 habitants, mais on a une aire urbaine qui est plutôt de 300-350 000 habitants, qui s'étend le long du canal jusqu'à Ouistreham, qui va, alors c'est pas la communauté urbaine, mais qui va jusqu'à Courseul, et qui fait qu'on a plusieurs marchés à Caen. On a le marché pour habiter, pour travailler à Caen, centre-ville et périphérie, parce que c'est une ville de reconstruction. On a l'extérieur de Caen, parce que si vous êtes à l'extérieur de Caen, ou en bord de mer, ou entre Caen et la mer, vous êtes à 10 minutes de la plage, un quart d'heure de centre-ville, 10 minutes de vos zones d'emploi. Donc, c'est sympathique. Et d'ailleurs, on a plusieurs typologies de clients. On a des gens qui achètent pour habiter, on a des gens qui achètent pour investir, puisqu'on a une ville étudiante avec 30-35 000 étudiants. On a des gens qui achètent en résidence secondaire, les fameuses côtes normandes qui sont à 2 heures de Paris. Et puis, on a un phénomène aussi de gens qui achètent pour une future retraite. D'accord. C'est-à-dire qu'avec le développement du télétravail, certains rapatrient la famille dès maintenant à Caen, ou dans sa périphérie, et vont en 2 heures de train travailler à Paris 2 jours, ils passent 2 nuits par semaine à Paris. Et puis, sur les belles saisons, ils y restent encore plus longtemps et ils investissent en vue de leur retraite. Donc, on a cette chance d'avoir plusieurs marchés et qui fait quand il y a un moteur qui ralentit, l'autre marche encore. Donc, on arrive à avoir quand même des transactions.
Alors, comment est-ce que ça redémarre au niveau des transactions ?
Alors, ça redémarre. Par exemple, sur la dernière année, sur l'agglomération, on a un peu plus de 500 ventes d'appartements, un peu plus de 550 de maisons anciennes. Donc, on a une progression. Dans des prix qui avaient baissé sur les appartements de 2,9%, on s'aperçoit que sur le dernier trimestre, on a des prix qui redémarrent à la hausse à plus 0,2%.
Mais donc, on est à 2700 euros par mètre carré en moyenne, comparé par exemple à Deauville qui est à 6000 euros du mètre carré. Bon.
Voilà, on est à 2007-2009, on va être à 3005 sur le centre historique de Caen, sur les appartements, 4005 ou 4007 sur les maisons, parce qu'il y a peu de maisons à l'intérieur de Caen. Après, les gens sortent et ça a été un peu l'étalement urbain à cause de ça, mais parce que avec les bombardements et la reconstruction de Caen, on a reconstruit des appartements, pas tellement de maisons, mis à part quelques quartiers historiques. On nous parlait dans votre reportage du quartier Hastings, c'est le quartier de la place du Canada. Et effectivement, ça, c'est le quartier historique où il y a une attractivité, mais le nombre de biens à vendre, il est assez léger. Donc, on a un marché qui est quand même dynamique, qui est dynamique en prix de maison. Les maisons continuent, elles, de progresser. Par contre, ce qui avait été le coup d'arrêt, et c'est pas propre à Caen, c'est la hausse des taux de l'immobilier.
Taux d'intérêt qui était monté jusqu'à 4,30% il y a encore 2 ans. On est maintenant à 3,14% en moyenne, toute durée confondue, selon Crédit Logement CSA, qui a publié là dernièrement son observatoire. Donc c'est ça, selon vous, qui a permis de rebooster, de redonner du pouvoir d'achat ?
Oui, on voit des bons dossiers avec un emprunt de 15 ans à 2,80%. Il faut se rendre compte que pendant un temps, les taux d'intérêt entre 3,5, 4, voire un petit peu plus, on avait perdu 30% de pouvoir d'achat pour un acquéreur, parce que le coût du crédit faisait qu'on perdait 30% de pouvoir d'achat. Donc, on avait un coup d'arrêt. On avait eu aussi un coup d'arrêt sur l'investissement neuf. Donc, le marché était à l'arrêt. Et finalement, la baisse des taux de crédit, nos vendeurs qui ont ajusté leur prix, parce que ça joue aussi. C'est-à-dire que tant que les gens sont habitués à un prix haut, ils ont du mal à baisser. Au bout de 6 mois ou 1 an sans vendre, ils baissent. Mais quand on est au bon prix, on vend, et notamment sur le marché caennais.
Alors ça, c'est le côté bonne nouvelle. Voilà, oui. Une reprise du marché. On est passé du vert pâle au vert plutôt centrale, on le voit, et Olivier l'a dit, l'Observatoire Crédit Logement donne des taux d'intérêt qui vont de 3,08 à 3,10 sur 20 ans, et voire même sur 25 ans, et il y a un effet corrélatif direct entre la baisse des taux d'intérêt et la reprise du marché de la transaction, bien évidemment. Par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a toujours autant de demandes de tension sur le logement, et on a des familles désespérées, des parents désespérés qui n'arrivent pas à trouver des logements étudiants. Hein. Il y a un vrai sujet sur le logement étudiant, quand on n'y échappe pas d'ailleurs, comme les grandes agglomérations qui ont de grands bassins étudiantins, c'est la vitrification littérale du marché locatif. On a un marché locatif qui s'est littéralement effondré en termes d'offres, c'est moins 40 à 50% sur certaines régions. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est comment se porte le marché locatif privé ici, dans l'ancien, à Caen? Est-ce que vous échappez à la règle ou est-ce que vous subissez les mêmes affres de n'importe quelle grande agglo comme Nice, Lyon, Nantes ou Paris?
Alors, on échappe en partie à la règle.
On trouve
à se loger à Caen et on trouve à se loger pour les étudiants à Caen. On a eu la chance qu'il y ait un certain nombre quand même de nouveaux projets qui se passent sur Caen et l'agglo.
Phénomène d'Airbnb ou de report
sur des... Il n'y a pas trop de phénomène d'Airbnb dans Caen. Il y en a un petit peu, mais on a eu du logement étudiant,
on a eu des programmes d'investissement. Qui va trouver à se loger.
Voilà. Avec des prix qui étaient relativement raisonnables dans le neuf. C'est-à-dire qu'on avait eu des prix dans le neuf à moins de 4000 euros. Alors, il y avait l'avantage fiscal, mais à moins de 4000 euros ou à 4000 euros dans des prix dans le neuf, pas forcément en plein centre-ville, mais éventuellement à l'extérieur, eh bien, on a pas mal de gens qui sont des investisseurs. Et les Normands, notamment, sont des investisseurs à Caen. D'accord. Mais on voit de plus en plus de gens des régions de l'Eure, de Seine-Maritime, de régions parisiennes, venir investir dans de l'immobilier à Caen, qu'il soit ancien ou neuf, parce que finalement, la rentabilité
n'est pas mauvaise. Alors, question, justement. Ouais. L'investisseur, il va acheter dans l'ancien. Vous me dites, je reprends vos mots, on n'a pas trop de difficultés à se loger. Un jeune actif qui arrive et qui est muté à Caen et qui a besoin d'un T2 ou un T3 dans l'ancien, qui va le trouver relativement facilement?
Il le trouve relativement facilement parce qu'il y a quand même eu, depuis un certain nombre d'années,
une offre
suffisante de logements. Par contre, il faut savoir que le phénomène, les gens s'éloignent aussi parfois du cœur de la ville.
D'accord.
Alors, c'est encore supportable à Caen, parce que vous êtes à un quart d'heure, 20 minutes, même si ça a un coût. Mais les gens s'éloignent. Ils s'éloignent pour trouver une maison
d'habitation,
avec un bout de jardin, sur maintenant des terrains de 300-500 mètres carrés. Il va un quart d'heure, il peut investir à 240-260 000 euros. Mmh. Il va avoir...
Alors, prenons la rentabilité. On va prendre l'exemple. Donc 43 000 euros, c'est 200 000 habitants, c'est ça?
C'est 200 000 habitants.
Ouais, 200 000. C'est une très grosse agglomération à l'échelle française. Hein, parce que je rappelle que sur le 34 000 communes, il n'y en a que 2 000 qui ont la taille de Caen. Donc c'est une très grosse agglomération. La question est la suivante, c'est si vous nous dites qu'on se loge facilement à la location, est-ce que quand on investit pour faire de la rentabilité locative, il n'y a pas trop de vacances du coup? Est-ce qu'il n'y a pas une suroffre finalement par rapport à la taille du marché? Concrètement, est-ce que vous me conseillez, forcément, vous allez me conseiller d'investir à Caen? Quel type de rentabilité je peux espérer? Est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement, par exemple, des prix moyens de loyer dans l'enceinte qu'on peut espérer?
Les prix moyens de loyer, quand il est encadré dans les avantages fiscaux, on est aux alentours de 10 euros. Et le prix moyen de loyer sur le centre-ville, on est aux alentours de 14 euros du mètre.
Très correct.
Donc, c'est des loyers corrects. Bien.
Donc à Paris, on est à 45 euros, donc
on est un peu déconnecté. Les gens trouvent à se loger, et les investisseurs ont en général des taux de rentabilité qui vont être de 4-4,5%, même sans avantage fiscal.
Brut.
Oui, net, ça serait parfait. Alors là, tout le monde viendrait à Caen.
Ouais. Mais, et quels sont, alors, Jean-Michel, justement, les quartiers, on va dire, les plus porteurs, ceux qui ne connaissent pas Caen, en fait? Comment, si on devait faire une répartition entre les différents quartiers?
Caen, c'est déjà trois pôles étudiants qui sont desservis par une première ligne de tram qui dessert les trois pôles étudiants. Donc tout le long de cette ligne de tram, c'est assez structuré, ça a été structuré avec des nouveaux logements. Et puis, ben, on peut considérer que l'arrivée de la deuxième ligne de tram qui est annoncée pour 2028 à Caen soit un atout pour ces quartiers. On a des quartiers autour du stade d'Ordano, le stade de Caen, surtout ouais. connu quand ils étaient en Ligue 1, un petit ouais. peu moins bien maintenant.
C'est douloureux. C'est douloureux.
Et puis les quartiers Chemin Vert, je pense, vont voir leur prix progresser, vont voir leur attractivité, parce que le tram 2 va se connecter avec le tram 1, se connecte aussi avec les nouveaux quartiers de la Presqu'île. Donc, ça fait une ville plus accessible. Et effectivement, les modes de transport permettent de structurer la ville. On a aussi une structuration avec des liaisons douces, un certain nombre de pistes cyclables qui ont été construites. Et contrairement à ce qu'on dit, il pleut pas toujours à Caen. Et ouais. On a de plus en oui, plus de gens.
Oui, casser un peu les préjugés. C'est vrai, ce préjugé qu'il y a, il pleut tout le temps, pas du tout.
Il pleut moins à Caen qu'à Bordeaux ou qu'à Biarritz.
Oui, et qu'à Paris, d'ailleurs, je précise.
Et qu'à Paris aussi.
Ouais, encore une fois, il faut déconstruire les limites. Il y a une chose qu'il faut dire aussi à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que la reconstruction est exceptionnelle. Ouais. C'est une des rares villes, il faut le dire, après-guerre, qui a été reconstruite de manière magnifique, de manière spectaculaire.
C'est très spectaculaire.
Ça n'a pas toujours été réussi.
C'est un peu l'américaine. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu l'université, le oui. campus 1. C'est oui. typique d'un campus à l'américaine, en plein cœur de la ville, avec des grands espaces verts.
Elle est devenue très jolie. Je peux vous citer une autre ville, c'est la ville de Lorient, qui est moche comme c'est pas permis.
Bon, mais,
c'est tellement moche que c'est devenu magnifique, en fait. Et je vais vous dire, l'hôtel de ville dans lequel nous sommes allés, oui. il est tellement moche qu'il a été classé et qu'il est devenu magnifique. Quelque part, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la reconstruction, ce que je trouve magnifique, c'est d'avoir ceux qui ont pensé la reconstruction n'ont pas oublié la tradition et le patrimoine de la ville. Et c'est ça que je trouve remarquable.
Mais on a eu ces dernières années aussi un développement entre le bâti de reconstruction, l'amélioration du bâti ancien, notamment aller voir du Bien côté du quartier Lorge, qui était une caserne militaire en pierre de Caen, en plein centre-ville ou pas loin du centre-ville, et qui a été rebâtie avec des activités publiques. Et finalement, l'arrivée sur la Presqu'île, on le voit dans votre reportage, la bibliothèque, la BMVR, le nouveau tribunal. On a maintenant quelques éléments emblématiques, tout ça autour d'un port. Parce que quand on est à 20 km de la mer, mais vous avez des voiliers dans le centre-ville, vous avez des guinguettes l'été pour prendre un pot en plein soleil. Et ces nouveaux quartiers, ces axes structurants, cet effort qui est fait pour améliorer la ville, la rend attractive à moins de 2 heures de Paris, à moins de 2 heures de Rennes. On est moins cher que des villes comme Rennes, parce que à Rennes, le prix moyen, c'est 3 600 euros du mètre. À Caen, 2007-2009, dans l'ancien, en moyenne, peut-être 3 500 en plein centre-ville, mais le plein centre-ville de Rennes va être aussi plus élevé. On est moins cher que Nantes, que Bordeaux. Donc, on a aussi des gens qui viennent investir avec du pouvoir d'achat, qui sont pas trop loin pour pouvoir gérer et qui trouvent ça intéressant.
Parfait. Et pour terminer, en conclusion, comme le veut la tradition, en quoi, Jean-Michel, faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier ? Vos bons conseils, vos règles d'or.
Alors, j'ai un conseil et puis j'aurai un souhait pour l'immobilier aussi. Mon conseil, c'est, on connaît les règles, l'emplacement, ça c'est invariable dans l'immobilier, mais il faut quand même y rajouter la performance énergétique. Parce que dans l'immobilier ancien, finalement, on aura quand même des travaux d'amélioration de cette performance énergétique à financer, qui vont représenter peut-être un coût de 1 000-1 200 euros au mètre carré sur les années à venir. Alors ça va s'étaler dans le temps, c'est 2050, mais on va passer d'un 2007 à un 3009. On va pas être loin des prix du neuf, mais c'est cette tendance, donc faut faire attention. Et puis, on parle de ce marché immobilier qui, parfois, est à l'arrêt, parce que il faut une vente pour en débloquer une autre. Moi, j'ai un souhait. J'aimerais que les banques fassent un effort sur la portabilité des prêts immobiliers. On peut transférer une hypothèque, juridiquement, d'un bien sur un autre. Eh bien, si les banques autorisaient à ce qu'un acquéreur, enfin, un vendeur ne rembourse pas son prêt, mais puisse le réemployer, on aurait de nouveaux acheteurs. Parce que, on a beaucoup de gens qui ont emprunté à 1%, qui me disent « Mais pourquoi je vais vendre maintenant alors que j'ai un emprunt à 3% ?» Donc maintenant,
Vous avez vu que les banques n'étaient pas d'accord. Et que c'est pas leur intérêt.
Juridiquement, c'est possible, mais c'est pas leur intérêt.
Et que dans un marché qui est à 3,5%, je vois pas une banque qui ferait la portabilité d'un crédit qui restant à 10 ans avec un taux de 0,8 ou 0,9 ou 1,5%.
Elle gagnera un nouvel acquéreur, elle gagnera un nouveau client, enfin, elle gagnera son client sur le prêt complémentaire.
Il faut le souhaiter.
Eh bien, merci beaucoup, maître Jean-Michel Boisset, que l'on peut accueillir. Merci beaucoup et on se retrouve dans quelques instants pour parler immobilier neuf.
Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity.
De retour ici à Caen pour l'émission Les clés de la ville, on va parler immobilier neuf avec notre invité Stéphane Lavrioux. Bonjour Stéphane.
Bonjour à vous.
Directeur régional Normandie général. Grand Ouest, directeur général de Normandie Grand Ouest. Et pour démarrer l'entretien, Sylvain Lévy-Valenti.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Sylvain.
Voilà, en trois mots, vous avez une promotion, directeur régional, directeur général.
Ouais, Grand Ouest.
Bon, moi je suis ravi de vous retrouver, puisqu'on s'était déjà croisé sur justement les clés de la ville. Alors vous êtes, on va dire, très intégré et très implanté dans le secteur, vous avez pas mal d'opérations à votre actif. J'aimerais d'abord, si vous voulez bien, dans un premier temps, qu'on présente votre activité sur le territoire, et surtout insister sur le fait que chez Nexity, vous avez un ADN, qui est le logement abordable, et vous êtes installé dans le territoire de manière très ancrée.
Alors effectivement, je pense que dans le territoire normand, on doit être ici depuis une quarantaine d'années, notamment en aménagement, une agence... une filiale à Rouen, une filiale à Caen. Donc Caen, effectivement, fait partie des historiques, en fait, de Nexity. C'est une douzaine de personnes, donc c'est pas tout à fait la moitié de des collaborateurs de la Normandie, mais c'est 12 sur 30 personnes qu'on a en Normandie. Donc un pôle aménagement, un pôle, effectivement, de promotion. Donc on a effectivement une ADN sur la Normandie de pouvoir plutôt être sur des produits innovants. On travaille beaucoup d'opérations en bois. Donc des opérations en bois, on en a effectivement sur des opérations communes, parce qu'au fond, la nouvelle organisation de Nexity qui a été mise en place, même si on le faisait avant, je dirais on faisait de la prose avant de savoir qu'on en faisait, avec un travail commun entre les aménageurs et les promoteurs. Donc on a effectivement des opérations communes avec des opérations innovantes, puisque l'origine de l'aménagement, c'était Foncé Conseil. Foncé Conseil qui a toujours été, je dirais, poussé par l'innovation, par la biodiversité. Voilà.
Et d'ailleurs, dans le groupe, vous avez développé Highwood.
Ewood.
On est Ewood. 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 Parce que c'est YW2OD. Ewood. Alors justement, c'est un mode constructif innovant. Parce que ce qui est intéressant chez Nexity, c'est que non seulement vous êtes ancré dans le territoire d'un point de vue historique, mais vous avez toujours eu finalement ce schéma d'innovation, de frugalité, pour chercher des modes constructifs innovants. Le bois, c'est important. Et d'ailleurs, vous avez développé une construction bois à Douvres-la-Délivrande.
Oui, entre autres.
Entre autres. Non, mais c'est iconique. Vous pouvez nous expliquer justement
l'avantage du système. Bon, déjà, c'est l'avantage d'un groupe comme le nôtre, c'est qu'on est capable de mettre en place, je dirais, des études pour venir créer, je dirais, des modes constructifs innovants pour qu'ensuite les développer en région. Alors, par mon ancienneté dans le groupe, qui n'est pas de... Je suis arrivé au siècle dernier dans le groupe, donc il faut quand même le savoir, où j'ai participé à la mise en place du produit Ewood à l'époque, en 2008. Et aujourd'hui, au fond, je pousse cette innovation. Donc le projet Ewood, c'est des ensembles des bâtiments donc collectifs, 100% en bois. Donc plancher, mur...
Ossature bois,
pas de plancher béton. Bois, à part le noyau central.
À part le noyau central.
Qui sert, d'accord, je dirais, à contreventer, voilà, donc... l'opération de Douvres, donc c'est une opération sur un modèle, je dirais, qu'on a mis en place, je dirais, qui est plutôt un modèle sociétal, puisque ça s'appelle Complicity. C'est des résidences intergénérationnelles où, au fond, il y a des zones de communes plus larges avec des salles communes pour pouvoir créer de l'animation et de la connexion entre les familles et les anciens. Donc on a une proportion on a 20% de logements qui sont adaptés aux personnes, je dirais aux seniors, et le reste c'est des familles classiques. Et c'est de créer le village et l'entraide, en fait, entre les...
Un peu intergénérationnel.
C'est une résidence intergénérationnelle.
Alors, on l'a vu. Juste une dernière question sur les modes constructifs. On en parle beaucoup en ce moment. Parce qu'effectivement, l'avantage du bois, c'est une empreinte carbone ultra maîtrisée. Je parle d'ailleurs sous le contrôle d'une architecte qui m'écoute. Le bois, ça peut devenir une bonne alternative. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas un matériau délicat dans le sens où c'est aussi un matériau durable. Question qu'on nous pose très souvent, est-ce que ça coûte plus cher de construire en bois? Parce que ce que j'ai vu, moi, sur les opérations, c'est que ça va beaucoup plus vite, qu'on a un délai de construction qui est plutôt rapide et assez satisfaisant. Est-ce que les prix de sortie, c'est-à-dire les prix, sont aujourd'hui maîtrisés, Stéphane Labriot?
Alors, les coûts de construction sont légèrement plus chers, je dirais.
De combien?
Mais à partir du moment...
5%, 10%?
Ouais, 5%.
Ouais.
Mais à partir du moment où on a une conception déjà qui soit optimisée pour... faire du bois. Il y a des sujets de conception,
le
de portée.
Avec le,
il y a le hors-site 2D, le hors-site 3D, donc on est sur des...
Qui permet de compresser les prix.
De compresser les prix, mais à partir du moment où on conçoit le bâtiment avec les architectes en intégrant les contraintes du bois. Si au fond, on dessine un bâtiment en béton et on se dit on va le faire en bois, effectivement, on n'est pas optimisé, on n'est pas optimal pour construire.
Alors, on va parler du marché et de la dynamique du marché du neuf à Caen et plus généralement un peu dans le Calvados, vous êtes d'accord? Alors, bon, la crise immobilière dans le neuf, c'est une année.
À qui le dites-vous?
C'est une crise en chasse une autre, c'est de la permacrise. Bref, le président Macron ne nous aura rien laissé. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, le marché immobilier dynamique à Caen, plus dans le Calvados. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est d'abord, un, qu'est-ce que vous pensez de la dynamique du marché du neuf? Est-ce que vous souffrez, comme les autres régions, avec des problématiques d'autorisation d'urbanisme, de permis de construire également, malgré les contraintes qui sont imposées, je le rappelle aux élus, parce que parfois on fustige les élus, mais eux-mêmes aussi vivent des contraintes pas évidentes. Ça, c'est la première question que je voudrais vous poser. Je voudrais vous en poser une autre, c'est pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est nous donner les prix, voilà. Combien ça coûte de se loger dans le neuf, ici, dans la région, à Caen et dans le Calvados?
Bon, alors, je pense que, globalement, Caen a aussi souffert du contexte, comme tout le reste du pays. Faut se rappeler que c'est quand même, les chiffres 2024, c'est moins 43% par rapport à 2019. Voilà. Ça a tendance encore à descendre, donc je pense qu'on va avoir atteint... Enfin, 25 à la moitié. Donc, je pense qu'on aura perdu la moitié.
Moins
de la...
50%.
Moins 50%,
en combien
je
de temps
pense. 5 ans.
Ouais.
En 5 ans. Quand a moins, je dirais, moins baissé, il y a déjà, c'est les régions de l'Ouest, de façon générale, ont une démographie et donc un vrai besoin un besoin de logement, donc, et une dynamisme. Et une proximité, au fond, que l'on a, nous, aménageurs promoteurs, qui sont auprès des élus et des collectivités, où on va chercher des solutions pour continuer quand même à pouvoir démarrer les opérations. Donc il y a eu des aides aussi des collectivités pour qu'on puisse continuer à produire du logement, puisque même si, au fond, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas des sujets de problématiques de location... Effectivement, c'est parce qu'il y a eu de la construction. S'il n'y a pas de construction, voilà. Donc on a perdu tout notre pan d'investisseurs. Le marché était construit entre les investisseurs, les accédants et les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, le pan des investisseurs représente ce qui faisait, je dirais, entre 50 et 60% du marché. Pardon, 50 à 60% du marché. Aujourd'hui, ça ne représente plus que 20% du marché. Voilà, donc
c'est national, on le retrouve un peu partout.
C'est national,
le phénomène.
Voilà, je dirais. Et ce qui va engendrer dans les années futures les problématiques justement du marché du locatif privé, puisque ces logements qu'aujourd'hui on vend pas à des investisseurs seront pas mis à la location dans 2 ou 3 ans. Donc le marché peut se retourner. Donc on voit déjà au fond dans certaines régions où c'est déjà tendu, mais ça sera encore pire dans 2 ou 3 ans.
Mais vous parlez d'or parce que c'est exactement ce qui est en train de se produire. Puisque quand on travaille comme promoteur, vous le savez, vous travaillez sur du temps long. Et donc, aujourd'hui, on est sur des stocks qui sont extrêmement bas. la reconstitution d'une politique du logement, la reconstitution d'opérations telles qu'on l'a connue, il va falloir, pour faire pivoter le paquebot, plusieurs années. Il y en a qui parlent de 2027-2028, même des personnes qui disent que pour retrouver... Mais on a une bonne, il y a une bonne chose quand même. Hein, voilà, il y a une bonne chose. 2027, il y a les élections. Donc ouais. on peut toujours espérer, et le pire n'est jamais décevant. Alors,
donc pour le prix.
Pour le prix. Moi, ce que je vous demandais, c'est les prix sur toute la Normandie, le Calvados et y compris Caen. Voilà, à combien on peut acheter du neuf?
Le prix moyen est à peu près à 4000 euros. Donc on était en phase avec ce qui s'est dit tout à l'heure.
Avec la place de parking. Avec une place de parking.
Ah oui, pas mal. On vous donne le. Voilà, donc avec la place de parking.
D'accord.
Il y a toujours des projets un peu emblématiques.
Basse Normandie, Calvados.
Voilà, 4000 euros moyen sur la Normandie, Basse Normandie. Et je dirais le prix moyen dans Caen, à Caen, c'est 4002, quoi.
4200 mètres. On peut trouver aujourd'hui, dans l'immobilier neuf, sur Caen. Ok. Est-ce que la location, aujourd'hui, est équivalente, qu'on a vu avec Maître Boisset tout à l'heure, qui nous donnait un prix moyen de 10 euros du mètre carré sur l'ancien, et cœur de ville, on était, je crois, à 14 euros du mètre carré. Et quel est le prix moyen du mètre carré à location dans Caen, et puis plus généralement dans la région?
Dans le neuf. Alors, on n'est pas tout à fait aligné avec, on n'a pas les mêmes chiffres.
Voilà.
Mais il a, monsieur le maître n'a pas dit que c'était comment dans l'ancien, que c'était c'est à 10 euros, c'était quand c'était des investisseurs, donc des loyers plafonnés dans le cadre de la Pinel. D'accord. Qui était à 10 euros.
D'accord.
Je reprends pour qu'on soit clair. Donc nous, effectivement, on pense que le marché d'Ancan est plutôt situé aux alentours de 20 euros.
Voilà, ça, c'est pour les logements étudiants. 20 euros du mètre carré dans la ville de Caen.
Pour logement étudiant, on est plus proche de 20 euros quand même.
Oui.
Puisque, voilà. Et dans le Calvados, on le situe, le marché libre, plutôt à 15.
Alors, on va parler...
Juste une question. Quels sont, pour vous, en fait, Stéphane, les leviers de la relance? On parle, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, pendant des années, 50% investisseurs, 50% accédants. En fait, en gros, le volet investisseur qui se réduit totalement... On parle d'un statut du bailleur privé pour relancer la machine, le prêt à taux zéro d'un côté, les donations de l'autre. Quelles sont pour vous les clés d'une relance, en tout cas dans le neuf?
Bon, la partie, je dirais, accédant, primo-accédant, qui fait partie, on prend des enjeux et des efforts que l'on a fait, parce que en fait, c'est le marché qui tient encore aujourd'hui grâce au PTZ. Qui est censé se terminer en
2027.
Ça a été quand même depuis le mois d'avril où on a ouvert toutes ces zones et le PTZ, que ce soit pour les pavillons, c'est vraiment le boost, donc c'était une bonne chose. Maintenant, le statut de bailleur, on le souhaite tous et on l'espère tous, mais il faudra quand même qu'on ait un amortissement qui soit acceptable et qui soit pas juste... J'ai entendu parler de 2, de 3,5. Je pense qu'effectivement...
Oui, vous faites allusion au texte qui a été
adopté. Les propositions qui avaient été faites à 5, je pense que c'est un minimum pour qu'il se passe quelque chose. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'investisseur, s'il a plus intérêt à aller mettre ça sur des obligations d'État qu'acheter un logement,
je pense qu'on prend le statut qui a été adopté en première lecture récemment, qui est extrêmement décevant, bien évidemment. Encore une fois, toujours décevant, avec des taux d'amortissement qui ne correspondent pas tout à la réalité. Ça a juste le mérite d'exister. Puisqu'on a fait des calculs, sur, par exemple, un appartement de 100 000 euros, on a calculé qu'en appliquant les règles actuelles du statut du bailleur privé, on avait un taux de rentabilité d'1,6. Si on ne fait rien, on est à 1,8. Donc autant ne rien faire, il y a urgence à ne rien faire. Et d'ailleurs, faites les calculs, vous verrez qu'on aboutit à la même conclusion. La politique du logement, tout est politique dans le logement. De toute façon, tout est politique dans le logement, y compris dans l'ancien. Donc là, la seule espérance que nous avons, c'est 2026 et 2027. Mais on va parler maintenant, si vous voulez bien, des opérations emblématiques de Nexity, notamment à Caen et à Bayeux. Parce que, autant finir sur des notes positives, parce que vous êtes très résilient chez Nexity. Non seulement vous avez réabordé chez Nexity une transformation complète de l'entreprise, avec votre présidente Véronique Bédague, mais vous avez toujours gardé, et je trouve ça extrêmement ingénieux, cette idée du logement abordable. Et d'ailleurs, vous avez des offres en ce moment, où vous dites aux primo-accédants, par exemple, aux acquéreurs, pour le prix du loyer, vous pouvez acquérir la propriété. Et vous avez trouvé des solutions qui permettent aujourd'hui de vous adapter à cette nouvelle donne.
Ouais, voilà, on a effectivement notre notre chemin pour aller chercher l'accédant, c'est de se dire bon, quelle est la capacité. Donc le marché est un peu révolutionné, parce que il y a deux marchés. Il y a le marché d'hier qui était 2020-2021, et le marché d'aujourd'hui, avec des clients qui ont changé, qui n'ont pas du tout la même capacité. Et donc on a travaillé auprès des accédants, c'est loyer égal crédit. Donc on vient au fond avec le PTZ, nous aide à trouver le chemin, et derrière on vient aussi abonder un PTZ qu'on pourrait appeler le PTZ Next City,
ouais.
qui est là pour encore faire baisser les mensualités, qui
est complémentaire d'un PTZ. En partenariat avec une grande banque nationale.
Avec la grande banque
nationale. On peut donner son nom ?
Ça doit être LCL.
Voilà, c'est le crédit lyonnais. On va parler de l'opération Archipel à Hérouville-Saint-Clair, alors, qui est un projet labellisé BBCA, qui est un site pilote, avec une programmation extrêmement importante, 1300 logements.
Voilà, donc on est en complément de l'opération sur laquelle on est intervenu tout à l'heure.
Oui.
Donc Hérouville, c'est un concours d'aménagement qui a été gagné par les équipes de Next City en 2020. Donc c'est une ancienne friche industrielle portuaire qui va être réaménagée. Donc on a eu tout à l'heure les sujets de la montée des eaux du GIEC. On a l'avantage d'être un site beaucoup plus haut que celui de Caen. Donc voilà, donc on n'a pas eu, on sera au pire à deux, au pire, oui, on va dire au pire, 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau maximum envisagé. Donc on a.
Ce que vous disiez tout à l'heure.
Donc voilà, c'est notre avantage. Et c'est vrai que c'est ce quartier, cette ZAC, c'est un futur quartier à Hérouville, a été conçu, bien sûr, en intégrant l'eau, en tournant vers l'eau. Ça a été conçu avec, je dirais, quatre îles, si vous voulez, qui sera uniquement piéton, avec le parking silo à l'entrée, où là, on trouvera des aménagements, des plages urbaines, une végétalisation effectivement très très développée, des commerces, hôtels, des zones publiques.
1500 mètres carrés de commerce, 5000 mètres carrés d'activité, 3000 mètres carrés d'hôtellerie.
Voilà, et 1300 logements.
Très belle
sur 4 îlots indépendants. Où les bras de mer viendront passer entre.
On va le suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. À Bayeux, vous avez réaménagé également le site de votre partenaire, le LCL, parce que vous avez créé un nouvel écoquartier. Vous pouvez nous en parler quelques mots ?
Alors, LCL, ça fait partie de la stratégie de venir réaménager des anciens sites, des quartiers, des anciens sites. Alors, ce site-là, c'est l'ancien site régional du LCL. Du Crédit Lyonnais, où là, ils traitaient les chèques, où ils traitaient, il y avait une imprimerie, voilà, c'était quand même un site dans Bayeux, en plein cœur de Bayeux, qui avait 1600 personnes, et donc on a travaillé avec eux, donc on va démolir l'ensemble des bâtiments, on laisse effectivement, on vient redessiner un quartier sur ce terrain, donc qui fait presque 10 hectares, et on va venir construire le cheminement principal, et reste le même parce que on est pour pas venir tout démolir, et on vient reconstruire il y a 1300 logements collectifs et des terrains à bâtir, plus 1500 mètres carrés de bureaux.
Un immense merci à vous, Stéphane Labriot, directeur général Grand Fret. Applaudissements du public. Merci
beaucoup. Merci, et on se retrouve tout de suite pour la fin, la conclusion de l'émission. À tout de suite. Et voilà, c'est le moment de conclure l'émission Les Clés de la Ville depuis la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen. Et comme le veut la tradition, un mot de conclusion avec notre invité, notre grand témoin, Colline Hurel.
Merci. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on a le sentiment vraiment qu'on est un peu un tournant dans nos métiers respectifs, que ça soit l'aménagement, l'urbanisme, l'architecture et la façon de concevoir et de se projeter dans la ville, au regard de tous ces enjeux-là auxquels on est confrontés, et notamment les enjeux du changement climatique. dérèglement ou changement, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, on voit qu'on ne peut plus concevoir la ville de façon figée ou comme on pouvait la concevoir, comme on pouvait concevoir les projets auparavant, en fait, en réalité. On est tout le temps, sans cesse, en mouvement, et on voit que les marchés, c'est pareil, c'est tout le temps en changement, et donc forcément que pour les promoteurs ou pour les marchés immobiliers, ça nécessite de la souplesse et de la flexibilité qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre tout de suite, quoi.
Bon, en tout cas, merci. On était très heureux de vous avoir, Colline Hurel. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission des Clés de la Ville. Prochain rendez-vous, Sylvain.
Absolument, on va se retrouver à partir de janvier, puisqu'on a deux émissions, oui. Une grosse rentrée. On sera à Tours avec beaucoup, beaucoup de plaisir. On va reprendre la route jusqu'à la fin de l'année 2026, au premier semestre 2026, puisque je vous rappelle, les amis, que nous avons les échéances électorales que nous suivons avec beaucoup de plaisir. On remercie effectivement Colline Hurel, architecte et responsable urbaniste, responsable d'opération Camp Presqu'île et Normandie Aménagement. Je voudrais qu'on remercie également Jean-Michel Boisset, qui était vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires auprès de la qu'on appelle le Camp, qui est notaire. Je voudrais qu'on remercie également Stéphane Lavrioux, directeur général Grand Ouest, d'être venu également sur le plateau. À toutes nos équipes, les équipes du Figaro Absolument. Immobilier, qui sont avec nous à la manœuvre. Sans eux, on ne serait tout simplement pas là. Notre ami Jason à la technique, Lorenzo Il Magnifico, le magnifique, notre super réalisateur qui était avec nous et qui nous accompagne sur tous les trajets, sans oublier bien sûr notre super réalisateur caméraman Alexandre Burkhardt, directeur artistique, et notre producteur Grégoire Darico. À toutes et à tous, venez à Caen, c'est magnifique, justement, venez investir massivement, on connaît un notaire bien placé, on pourra vous donner ses coordonnées, en tout cas on était très heureux de partager ce moment avec vous, Olivier Marin. On vous donne rendez-vous à Tours en janvier. D'ici là, belle fête de fin d'année, prenez soin de vous et à très vite.